Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes la veille, ou bien plutôt pendant la semaine de la paracha qui s'appelle Chayei Sara. On est à la troisième semaine, donc à la troisième paracha, qui parle des premiers juifs. Donc on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est un juif par rapport comment il était le premier juif, donc Abraham. On peut comprendre qu'est-ce que c'est le judaïsme d'une façon générale, quel est notre rôle. Alors, on a vu déjà, comme on a dit, que c'est la troisième paracha après, la troisième paracha qui parle de ses premiers juifs, Abraham. Après, on va déjà parler des enfants, déjà Yitzhak, Yaakov, les tribus. Mais ça, c'est les trois premiers parachiotes, donc qui parlent de celui qui a créé le peuple juif, et c'était Abraham. Alors, même si on a dit que déjà à la fin de la douzième paracha de la Torah, on parle un petit peu d'Abraham, mais c'est un sujet que la Torah ne développe pas. C'est quelque part, c'était Abraham avant d'être juif. Abraham commence à devenir juif, en tout cas, ce que va représenter plutôt l'idée des juifs par rapport aux autres, là ça commence dans la paracha de Lech Lecha, lorsqu'il avait l'âge de 75 ans, assez âgé, donc il a pas mal fait dans sa vie, et pourtant sa judaïté commence par Lech Lecha. On a touché un petit peu ce sujet, mais on a vu d'une façon générale que dans ces deux parachiotes, Lech Lecha et Vaera, on parle de deux sujets qui est important dans le judaïsme, puisqu'on sait que dans le judaïsme, il y a deux notions. Il y a une notion de faire. En tant que juif, on a beaucoup de devoirs, on fait ça, on fait pas ça. Donc c'est très actif. Dans le judaïsme, on a beaucoup de devoirs. D'un côté, des devoirs matériels, mettre les tefillines, manger la matzah, être assis dans la soukha. Et c'est très carré, parce que chaque mitzvah est là, c'est... limite, ça veut dire qu'il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Pas quelques minutes avant et pas quelques minutes après, pas quelques centimètres de plus et pas quelques centimètres de moins. En fait, chaque mitzvah là, la limite, c'est chaque mitzvah là, c'est caractéristique. Il y a des limites et pourtant, ces limites sont porteurs des idées très très fortes et des non-limites, comme on a vu quelquefois. Donc alors, d'une part, la Torah, que d'une part, chaque mitzvah elle porte en elle des idées très profondes, mais finalement, ça résume par un acte. Faire tel acte ou faire tel acte. Et derrière ces actes, il y a beaucoup d'idées. Donc alors, d'une part, le judaïsme est très actif, faire. D'une autre part, le judaïsme est très intellectuel, étudié. Et ce qu'on trouve ensuite, au moment de donner la Torah, avant de recevoir la Torah, il est marqué que Dieu, il voulait voir si les peuples juifs ils sont d'accord de recevoir la Torah. Alors il y a des différentes manières comment ils ont répondu, mais ce qu'on trouve dans la paracha Mishpatim, là-bas il est marqué qu'ils ont répondu « Naase v'nishma ». On va faire, on va écouter. Alors, on va faire, on va écouter. D'ailleurs, c'est parmi les qualités des peuples juifs que grâce à ça, ils ont reçu la Torah, comme il est marqué. Et grâce à ça, ils ont reçu des qualités supérieures à ce qu'ils ont été avant. Le fait d'être d'accord, de faire avant même de comprendre. Alors, d'une part, mais d'une autre part aussi, on dit que c'est deux rôles. Ça veut dire que quand on dit qu'il faut faire et ensuite il faut comprendre, ça ne va pas dire qu'on fait sans comprendre. C'est deux notions. Il faut faire et ensuite il faut comprendre. Mais comprendre, il faut. C'est pour ça que dans le judaïsme, d'une part, on est très actif. Il faut être très actif. Mais d'une autre part, il faut être aussi, et c'est parmi les devoirs les plus importants, et il y a des gens qui font ça dans la majorité de leur temps, d'étudier de jour en nuit. On entend parler un petit peu pour bien et pour mal. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal que les gens étudient toute la journée, mais en tout cas, c'est pas le sujet maintenant. Mais ça existe, ce système chez certaines personnes, qu'on étudie tout le temps. Mais même les gens qui étudient pas tout le temps, ils travaillent ou bien ils font d'autres activités professionnelles, comme la plupart des gens dans la communauté juive, mais quand même, ils ont une obligation d'utiliser le temps libre pour étudier. Ça veut dire que finalement, l'étude, c'est quelque chose qui doit prendre beaucoup de notre temps. Par contre, les actes sont limités. Une fois que j'ai fait l'acte, c'est possible que j'ai fait un acte. L'acte, il est un acte, et pourtant, il a beaucoup de valeurs. Il y a des mitzvot, une fois que j'ai mis les tefilines une fois, je n'ai pas besoin de remettre. Une fois que j'ai secoué les loulav, il y a d'autres mitzvot qu'il faut, qui sont un petit peu différents, mais beaucoup de mitzvot, donc des lois juives, sont liées avec une fois par jour, ou une fois tout juste, et une fois qu'on l'a fait, on n'a plus besoin de le faire. Par contre, la Torah, c'est quelque chose qu'on nous demande de faire tout le temps. Donc, bien sûr que si on a le temps, mais en tout cas, si on a le temps, il faut le faire. Donc, comme on a vu que dans le judaïsme, il y a deux notions. Il y a une notion de faire, et là, c'est très actif, c'est très matériel, pardon, matérialiste, il faut faire. Et de telle manière et pas d'une autre manière, d'une autre manière, le judaïsme est très pensé et très intellectuel. Donc alors on peut dire comme ça qu'Abraham, déjà, il a beaucoup réfléchi comme il le marquait, il a beaucoup étudié, il a beaucoup cherché comme il le marquait. Donc l'âge de 3 ans, il était déjà un enfant intelligent, il a cherché à comprendre d'où vient le monde, et ensuite il avançait dans ses pensées, donc il était opposé à ce qu'était la pensée à l'époque, à tel point qu'il a risqué sa vie. Et ensuite, après des années d'études, des explications qu'il a expliquées à ses fidèles, il avait beaucoup de fidèles, là, d'un coup, Dieu lui dit de passer vers l'acte, qui finalement, c'est ça, comme on a dit tout à l'heure, la majorité d'occupations. Ce qui nous occupe dans la journée, c'est surtout des actes à faire, soit des actes de mitzvot, soit des actes différents dans la vie autour de nous, mais faire le commerce d'une façon correcte, honnête, etc. Mais une minorité de temps, on s'occupe, après tout, c'est une minorité de temps qu'on s'occupe de notre étude, même si c'est très important. Et une minorité de gens, ils étudient tout le temps. Ce n'est pas la majorité de la communauté. Mais quand même, dans la communauté, donc dans l'esprit juif, il y a deux notions. Il y a la notion de faire et il y a la notion d'étudier. Alors ça, on peut dire que les deux parashiyot, Lech Lecha et Vaera, c'est deux notions. Lech Lecha, c'est faire. Lech Lecha, c'est avancer. Avancer, même quand Abraham, il ne comprend pas vers où il avance. Comme il a marqué déjà que la terre, où Dieu il a dit à Abraham qu'il va avancer, il va donner cette terre, il n'a pas révélé quelle terre ça va être. Il a dit vers la terre où je vais te donner. Donc, quelque part, c'est l'idée de dire tu dois avancer vers l'inconnu. Par contre, lorsqu'on est dans l'étude, alors c'est le contraire, on essaie de comprendre chaque chose. Parce que si on fait confiance et on ne comprend pas, ce n'est pas l'étude. Donc il y a ces deux notions. Et donc dans la paracha, Lech Lecha, comme il est marqué, il avance. Et parfois il ne comprend pas, il avance et il a l'impression qu'il recule, mais quand même il fait encore d'efforts, il avance. Et ensuite, il fait beaucoup d'efforts, il a beaucoup d'épreuves. L'épreuve, ça veut dire quoi? Qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu il me demande ça. Je ne comprends pas pourquoi Dieu il a fait ça. Et pourtant, j'avance. Et finalement, il arrive à un autre niveau que là, d'un coup, c'était surtout après la circoncision, que là, d'un coup, il comprend cette notion de Vayera El Havashem. Il avait une révélation divine. Que la révélation divine, c'est une notion de compréhension, mais une compréhension très profonde. Alors, c'est vrai qu'il y avait cette révélation qui était liée avec telle et telle idée, mais d'une façon plus générale, Il est arrivé à un niveau supérieur qu'il commence à voir, il commence à comprendre. Alors, dans notre paracha, que c'est déjà la troisième qu'on parle d'Abraham, on commence par la mort de Sarah, on va revenir, qui était une femme parfaite, à tel point que la Torah nous dit que toute sa vie, malgré toutes les épreuves qu'elle avait, elle était la personne idéale. Ensuite, on passe, une fois que la Torah nous raconte comment Sarah elle est décédée, comment Abraham, il voulait acheter l'endroit, ce champ pour enterrer Sarah, c'est le champ qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la grotte de Marpella. Mais Abraham, il a négocié, il voulait que la ville soit d'accord et la personne soit d'accord. Il a payé avec l'argent comptant, il a payé avec des sommes très élevées. Mais Abraham, il a insisté pour que ce soit à lui. Et d'ailleurs, on apprend beaucoup de choses de cette petite paracha qui parle de l'enterrement de Sarah, comment il faut procéder. Alors là, la Torah, d'un coup, elle nous dit, après cette histoire, une phrase, que cette phrase, elle est un peu difficile à comprendre, mais nos sages nous expliquent de telle manière. Dans cette phrase, il est marqué, Abraham était vieux. Il est rentré dans le jour. Il faut savoir comment traduire ces mots. Et Dieu, il l'a béni en tout. Alors, c'est un passage un peu compliqué. Ça veut dire quoi? Abraham, il est vieux. Okay, ça, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Il rentre dans le jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Dieu, il a béni Abraham en tout. Alors, il y a des différentes explications, mais ce qui nous intéresse... Alors, il est marqué comme ça. Zaken, ça veut dire vieux. Mais Zaken aussi, ça veut dire, là on trouve ailleurs, Zaken, c'est quelqu'un qui a un bagage. Il a acquéri des connaissances. Donc, une personne âgée, normalement, il a une expérience. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas... Ils ne comprennent pas la valeur des jeunes, ils pensent qu'ils savent tout. Et donc mais normalement, une personne âgée, selon la Torah, il faut le respecter pour plusieurs raisons, et aussi parce qu'il a une expérience, seulement qu'on ne lui laisse pas parfois s'exprimer. Donc, alors, Abraham, la Torah nous dit qu'il était Zaken. Zaken, ça veut dire quelqu'un, un sage, quelqu'un qui a acquéri beaucoup de connaissances avec ses expériences et ses études. Et d'une autre part, on dit qu'il était Baba Yamim. Baba Yamim, ça veut dire qu'il est rentré dans le jour. Rentré dans le jour, ça veut dire qu'il a rempli ses jours. Il n'a pas perdu de jours, comme il est marqué dans les différents endroits. Donc c'était l'homme parfait. L'homme parfait, d'une part, au niveau intellectuel, il était un homme parfait. Très sage. Très sage parce qu'il était un homme profond, comme on dit que son nom indique. Il s'appelle Avram. Avram, Av, c'est un père. Mes pères, dans la Kabbale, ça veut dire le père de tout, c'est l'intelligence. C'est expliqué, commenté dans Tania, on ne va pas rentrer dans ce sujet, mais en tout cas, Av, dans la Kabbale, c'est l'intelligence. Ram, ça veut dire élevé. Ça veut dire qu'Abraham, il avait une connaissance très très profonde. Et pourtant, Dieu lui dit qu'il faut arrêter de s'occuper de lui-même, en tout cas de se concentrer autour de lui-même, il faut aller vers les autres. C'est ça qu'on a vu dans la parasha. Lech lecha, Dieu il dit à Abraham, c'est bien ce que tu as fait jusque-là, à partir de là, il faut aller vers les autres. Donc alors finalement, ici la Torah, elle résume la vie d'Abraham, elle dit que d'une part, il était un homme très intellectuel, mais d'une autre part aussi, il est rentré dans le jour. Dans le jour, on a des différents, chaque jour est différent. Et pourtant, Abraham, il est rentré dans le jour, il a rempli ses jours. Pas seulement par rapport à lui, aussi par rapport aux autres. Alors là, on est dans un monde où il y a une différence de classe entre les gens. Il y a des gens qui sont intellectuels, il y a des gens qui sont de l'autre sens. Mais... parfois, les gens très intellectuels, ils vivent leur vie et ils ne sont pas qu'ils ont de quoi parler, de quoi discuter avec des gens qui n'ont pas leur connaissance, leur niveau de connaissance, leur intelligence. Et Abraham, donc le premier juif, et comme on a dit tout à l'heure, que ça montre un petit peu ce que c'est le judaïsme en général. D'une part, le judaïsme nous demande de s'occuper, de s'intéresser, de s'approfondir dans la connaissance, dans l'intelligence, mais d'une autre part, en même temps, savoir amener cette intelligence vers le niveau le plus bas. Donc être très très haut et en même temps être très très bas. C'est pas facile, mais c'est l'idée que le judaïsme tient. Elle veut qu'on prenne l'exemple d'Abraham. Abraham, comme on a dit tout à l'heure, il était Abraham, comme si on va dire un homme très très intelligent, très profond. Et pourtant, il savait se baisser vers les gens très simples, très opposés à lui. Et il savait se baisser. Et là, il y a quelque chose que... parfois, on répète cette idée parce que l'idée est très intéressante. Il y avait un sage qui disait, un sage talmudique qui disait, j'ai beaucoup appris de mes maîtres, ce qui est normal, parce que normalement, on apprend de mes maîtres, de nos maîtres. Nos maîtres, ils savent ce que nous, on ne sait pas, donc on a appris de nos maîtres. Et ensuite, il dit, mais j'ai appris encore plus de mes amis. Donc, avec les amis, on a une connaissance à peu près pareille, et on échange, et très souvent, on n'est pas d'accord, parce que l'homme fait de telle manière qu'on ne pense pas pareil. Donc, on discute, on n'est pas d'accord, mais le fait qu'on n'est pas d'accord, on discute, finalement, je comprends des choses que je n'avais pas pu comprendre sans cette discussion avec mes amis. Alors, c'est ça, je le disais, j'ai beaucoup appris de mes maîtres, j'ai appris encore plus de mes amis. Donc, en discutant avec mes amis dans l'étude, j'arrivais à la profondeur de la compréhension, parce que dans l'étude juive, on dit que pour comprendre quelque chose de bien, il faut avoir une opposition. Si je n'ai pas une opposition, alors je ne peux pas comprendre les choses bien. Il y a une histoire talmudique avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était celui qui le maître de la Kabbale, celui qui écrit le livre des Zohar. Donc on raconte sur lui... c'était pas Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était Rabbi Yochanan. C'était un autre sage. Et c'est Rabbi Yochanan, je reviens, c'était avec les deux. Il y avait cette histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai, et il y avait cette histoire avec Rabbi Yochanan. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il était dans les grottes, et lorsqu'il est sorti des grottes, alors on raconte qu'avant qu'il était dans la grotte, il était pendant 12 ans, ensuite une année de plus, 13 ans, il était dans la grotte. Et pendant ce moment, il s'est approfondi dans l'étude. Et à ce moment-là, on raconte que tout ce que, avant, lui, il était celui qui posait la question, on lui a donné des réponses. Maintenant, c'est celui qui a donné des réponses. Pour beaucoup de questions, il a donné beaucoup de réponses, donc il arrivait à une profondeur. Mais c'est vrai que c'est surtout avec Rabbi Yochanan qu'il a marqué cette histoire que je voulais raconter. C'est que Rabbi Yochanan, il avait un élève qui, en même temps, il s'est marié donc, dans la famille. Il s'appelait Resh Lakish. Et ils ont étudié ensemble. Avant, il était un homme qui faisait... était un brigand. Et Rabbi Yochanan arrivait à l'amener. Il a promis bien qu'il se marie dans sa famille. Et il s'est marié. Il est devenu très sage. Et ils ont étudié ensemble. Et quand on étudie ensemble, souvent, on n'est pas d'accord. Donc, c'est Resh Lakish. Il était pas d'accord à Rabbi Yochanan. Il a posé des questions que le sujet de ces questions était qu'on n'est pas d'accord. Donc alors il y avait une discussion, parfois des discussions difficiles. Comme chaque fois on n'est pas d'accord, des discussions difficiles. Et finalement, des années après, c'est Resh Lakish est décédé. Donc, Rabbi Yochanan, qui avait l'habitude de ne pas étudier tout seul, donc on l'a amené à un autre rabbin qui va étudier avec lui. Au bout d'un certain temps, il était très déçu. Il a dit, ce rabbin que j'étudiais avec lui, sur tout ce que j'ai dit, il dit « j'ai une preuve que vous avez raison ». Ce n'est pas ça l'étude. L'étude, c'est comme ce que j'ai fait avec Rish Lakish, que tout ce que je dis, il a dit le contraire. Et c'est comme ça que j'ai arrivé à comprendre la profondeur. Donc ça, c'est une étude de la Torah. Ça s'appelle Chavruta. On n'est pas d'accord. Mais puisqu'on n'est pas d'accord, on arrive à voir l'opposition. Et grâce à l'opposition, on peut voir la profondeur de ce que moi, je ne connais pas. Ça veut dire que même si que j'ai un argument, je ne peux pas arriver à la profondeur de cet argument tant que mon ami, il ne va pas me mettre en opposition. Donc, il va être opposé à moi. À ce moment-là, je veux étudier profondément, réfléchir profondément. À ce moment-là, je veux comprendre profondément. Donc là, on va revenir à cette notion que Rabbi Yochanan disait, j'ai beaucoup appris de mes maîtres, c'est normal, mais j'ai encore plus appris de mes amis. Alors on a vu que par les amis, d'un coup il y a de l'opposition, on n'est pas d'accord, mais justement l'opposition nous ouvre des rivières de connaissances. Et ensuite il dit, mais encore plus j'ai appris de mes élèves. Parce que les élèves, normalement, ils posent des questions moins bonnes que les amis. C'est plutôt matérialiste, c'est plutôt de niveau bas. Alors justement, quand on pose des questions de niveau bas, on arrive à élargir l'intelligence au plus bas, et là, à ce moment-là, on comprend des choses d'une façon beaucoup plus profonde. Il y a beaucoup d'exemples pour ça, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le judaïsme pense que d'une part, quelque de profond, pour arriver à sa profondeur, c'est justement en descendant vers les autres, vers le monde actif et vers les autres. Donc alors là, on peut dire que dans notre parasha, la Torah résume Avraham comme celui, il était d'une part vers Avraham Zaken, il était un homme vieux, et là on a dit vieux, pas forcément d'âge, ce qui est vrai aussi, mais vieux de bagages. Donc il avait beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience active, mais aussi expérience réfléchie. Il a vu les choses d'une manière et d'une autre manière, donc maintenant il comprend bien les choses. Donc il était sage d'une part, très intelligent, mais d'une autre part aussi, il a rempli ses jours par de bons actes, comme la Torah nous dit, qu'il a ouvert sa maison pour que les gens passent. Il a fait beaucoup de bien autour de lui. Mais, donc, alors, c'est ça le but du judaïsme, d'être très, très profond d'une part et aller vers le plus bas d'une autre part. Et c'est ça un petit peu l'idée aussi qu'il est marqué dans le même verset qu'il avait un fils. Alors, il n'est pas marqué clairement qu'il avait un fils, il est marqué comme ça, Abraham, il était vieux, comme on a dit, il était parfait au niveau intellectuel. Il est rentré dans le temps, ça veut dire qu'il a rempli son temps, ça veut dire qu'il a fait toutes sortes de choses qu'il faut faire, au niveau actif et au niveau intellectuel, comme on a vu. Et Dieu l'a béni en tout. Béni en tout, alors parmi les explications, ça veut dire, tout d'abord, comme on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui sait n'est pas resté dans un mouvement. Il sait que d'une part il est très haut, mais en même temps il est très bas. Ça s'appelle qu'il est bon en tout. On a tous, chacun parmi nous, on a des qualités, mais il y a des gens qui ont des qualités dans certains domaines et des défauts dans d'autres domaines, comme la majorité des gens. Chez Abraham, on a dit qu'il était très haut et en même temps très bas. Ça, c'est la notion de bénir en tout. Mais une autre part, il était béni par un fils. Le fils est venu très très tard. En tout cas, ce fils qui était celui qui va lui remplacer, celui qui va être continuer les voies et la maison du peuple juif. Mais aussi, cette notion de fils, c'est aussi une bénédiction dans ce domaine qu'on vient de dire. Parce que très souvent, il y a une différence entre les générations. Il y a les parents, il y a les enfants, il y a les petits-enfants. Et ils n'ont pas ils ont pas, ils pensent pas pareil, ils suivent pas pareil. Sauf s'il y a un football, alors il y a le même sujet de discussion. Mais normalement, c'est trois générations qui pensent différemment. Ils n'ont pas le même langage. Mais Abraham et Yitzhak, ils ont été opposés dans leur nature. Comme il est marqué dans différents endroits, peut-être on verra si Dieu veut dans les parachutes d'après. Et pourtant, c'était une continuation. Même si Yitzhak, dans sa nature, était carrément opposé à la nature d'Abraham, c'était opposé dans les détails, mais dans l'ensemble, c'était la même chose. C'est comme on a dit tout à l'heure qu'Abraham, c'était celui qui était parfait en tout. Ça veut dire, d'une part, il avait ses qualités, d'une autre part, il savait aller et s'engager et s'attacher avec les autres. Ça, c'est une notion d'avoir des fils. Seulement que, c'est pas seulement qu'il a un fils, et à un moment donné, le fils, il part dans la nature, comme on voit aujourd'hui, que souvent, les parents et les enfants, ils n'ont pas des liens profonds. Mais il avait son fils, c'était à lui. Ils ont été très attachés, malgré leurs différences. Parce que c'est ça l'idée, c'est que d'une part, on est différent et en même temps, on est attaché. Encore, c'est vrai qu'avec notre émission qui est courte, on essaie de passer d'un sujet à l'autre, mais c'est toujours le même sujet. Dans notre paracha, il y a une histoire de mariage. Il y a beaucoup de mariages. Il y avait déjà des mariages avant notre paracha. Il y aura encore des mariages après notre paracha. Mais dans notre paracha, la Torah, raconte une histoire de mariage. Elle raconte d'une façon extraordinaire, très, très longue, avec beaucoup de détails et parfois des répétitions. Alors, comme on a dit, le mariage existait déjà avant. Et là-bas, on ne parle pas du tout. Soit on ne parle pas du tout de mariage, soit on dit rapidement tel est marié avec tel. Après aussi, on va parler de mariage, mais aussi d'une façon très, très générale. Et ici, on parle avec beaucoup de détails. Et alors, le chassidut explique qu'effectivement, la Torah, ici, elle raconte l'histoire du mariage parce qu'ici, c'est nécessaire. Dans notre sujet, c'est nécessaire. Comme on a dit tout à l'heure, que dans l'esprit d'Abraham, après, on va parler dans d'autres sujets, dans d'autres qualités, dans la vie juive. Mais là, on va rentrer plutôt dans les détails. Mais ici, on parle d'une façon générale. L'idée d'Abraham, comme on a dit tout à l'heure, c'est aller de bout en bout, d'une extrémité à l'autre, d'être très haut et en même temps d'être très bas. L'idée de mariage, comme on voit parfois dans certaines publicités, publications, qu'on dit que le mari il vient de je ne sais pas d'où et la femme elle vient de je ne sais pas où, tout le monde est d'accord qu'ils sont opposés dans leur habitude, dans leur réflexion, dans leur manière de voir les choses, et pourtant ils sont mariés ensemble. Ça, c'est une idée de mariage. Ici, dans notre paracha, la Torah, elle, avec ses détails très détaillés, cette histoire très détaillée, la Torah, elle veut nous montrer encore une fois, et pas encore une fois en vérité, la première fois, cette notion, c'est que l'idée du judaïsme, de lier des extrémités, et faire de ça une notion unie. Donc alors, Yitzhak, la Torah nous raconte comment Yitzhak était quelqu'un de très très haut niveau et comment son père il cherche une femme à son niveau, mais il savait que là où il habitait, il n'y avait pas. Donc il cherche au bout du monde une femme. Il ne sait pas si ça va marcher, ça ne va pas marcher. Et là, rentre tous ces détails de l'histoire qu'on n'aura pas le temps de raconter, mais on va rester avec cette idée que l'idée d'union entre deux extrémités, que certainement qu'ils ont un lien, parce que sinon on se marie tous avec tous, c'est pas ça l'idée. Ça veut dire que l'idée d'union entre mari et femme, c'est une idée d'union entre des extrémités. Dans l'esprit juif, aujourd'hui c'est un petit peu difficile, mais dans l'esprit juif, on voit que le rôle du mari et le rôle de la femme, c'est pas le même rôle. Mais pourquoi? Parce que chacun a son rôle. Alors il faut développer cette idée aussi. C'est pas parce que chacun a un rôle. Et dans l'esprit chassidique, dans la Torah, Dieu il a créé un monde matériel et spirituel qui parfois le matériel et spirituel quelque part opposé. Les notions matérielles, les notions spirituelles sont opposées. Et l'idée, c'est lier les deux choses ensemble. Alors, si on veut bien, on peut dire comme ça que dans notre paracha, ensuite, la, plutôt à la conclusion de la vie d'Abraham, que d'une part, on le trouve comme quelqu'un de très très haut, d'une autre part, on lui demande de faire des efforts et d'avancer et de descendre. Et ensuite, dans notre paracha, d'un coup, on le trouve comme l'homme parfait. Pourquoi il est parfait? Parce que d'une part, il est très haut, d'une autre part, il est très bas. Et ça, c'est notre mission dans, dans ce monde aussi, d'être très haut d'une part. Normalement, ça passe par l'étude. Et d'être très bas d'une autre part, ça passe par l'acte. Et c'est ça l'idée de l'homme parfait. Alors, c'est vrai que cette idée, elle va très très loin, jusqu'à le moment messianique, où, parce qu'aujourd'hui, on est assez loin de cette idée. On est plutôt matériel, on est plutôt spirituel. Celui qui est spirituel est le moins matériel. Mais dans l'esprit messianique, c'est la rencontre entre matériel et spirituel où la matérialité va exprimer la spiritualité et la spiritualité va éteindre jusqu'à la matérialité. Voilà un petit peu une petite idée sur notre paracha. Merci pour votre écoute. Et pour votre fidélité, et à la semaine prochaine.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.